Alors que sous la pression des États-Unis, les pays traversés par le Nil ont décidé de saisir l'ONU dans le cadre de leurs différends régionaux, l'Algérie voit une occasion en or pour s'affirmer également sur le plan régional et pour montrer son soutien aux pays panafricanistes et souverainistes. Le voisin de l'Est a accueilli à bras ouverts ce dimanche le premier ministre éthiopien. Abiy Ahmed a été accueilli à l'aéroport international Houari Boumediene par une importante délégation algérienne composée notamment du premier ministre Ayman Ben Abderrahmane, du chef de la diplomatie algérienne Ramtane Lamamra, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Abdelbaki Benziani, donc, et de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji. Le premier ministre éthiopien a été reçu donc ce lundi également par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. La visite officielle de 2 jours en Algérie du premier ministre éthiopien intervient alors que son pays cherche du soutien face à la crise l'opposant à l'Égypte, au Soudan et surtout aux États-Unis. En début du mois, Addis Abeba a poursuivi donc le remplissage du barrage de la Renaissance, suscitant l'indignation de ses voisins qui sont sous la pression de Washington. L'Égypte a même saisi l'ONU sur cette question. Si l'Algérie décide de soutenir l'Éthiopie dans ce différend, elle aura sa revanche également sur l'Égypte qui, elle, est soutenue par le Maroc. En effet, en mai dernier, le Maroc a exprimé son plein soutien à la sécurité hydrique de l'Égypte en tant que partie intégrante de la sécurité hydrique arabe, appelant à l'abandon des politiques unilatérales en rapport avec les fleuves internationaux et l'engagement envers le droit international, y compris donc l'accord de principe signé en 2015 en ce qui concerne le remplissage et l'exploitation du barrage de la Renaissance. Une position qui a valu au Maroc un soutien à son intégrité territoriale du Maroc et son engagement en faveur d'une solution internationale à la question du Sahara par le Caire, exprimée dans le cadre d'une déclaration conjointe après la visite de 2 jours en mai dernier du chef de la diplomatie égyptienne Sameh Shoukry au Maroc. Le problème du grand barrage de la Renaissance que l'Éthiopie a mis en place afin d'électrifier le pays et pourquoi pas aussi la région reste donc un problème majeur, non pas pour le Soudan ou l'Égypte, mais bien pour les États-Unis qui continuent de vouloir garder les pays d'Afrique dans le sous-développement. Avec autant d'aides financières dédiées au développement, entre guillemets, afin d'industrialiser l'Afrique, le continent n'a pas encore pu régler le problème de base qui est l'électricité. C'est pourtant ce qui manque pour lancer notamment la phase d'industrialisation du continent. L'Éthiopie pourrait dans ce cas être un pionnier donc dans l'industrialisation donc du continent africain. C'est ça qui dérange Washington, car les États-Unis ni les alliés occidentaux ne veulent d'une Afrique industrialisée. De plus, à long terme, l'Éthiopie compte également installer des centrales nucléaires avec l'aide de la Russie. Donc, Addis Abeba ambitionne donc aussi de lancer l'industrialisation de la région de la Corne de l'Afrique et non seulement celle de l'Éthiopie. Ce qui, à la base, était impensable pour Washington. C'est alors qu'est apparue donc la crise avec les rebelles du TPLF dans la région du Tigré et aussi l'alliance entre 9 groupes rebelles signés à Washington sous l'égide des États-Unis dans le but de renverser le pouvoir en place en Éthiopie et d'empêcher donc le lancement du grand barrage de la Renaissance. Mais ce fut un échec. L'Algérie soutient la démarche de l'Éthiopie, tout comme beaucoup d'autres pays d'ailleurs, comme le Kenya qui se voit maintenant menacé par les terroristes Al-Shabaab ou encore l'Érythrée qui est dans le collimateur de Washington, etc. En gros, l'Occident a pour mission d'empêcher le vrai développement de l'Afrique. Mais le continent africain, donc, n'a plus d'ordre à recevoir de personne, mis à part des Africains eux-mêmes. Les pays d'Afrique doivent impérativement sortir du franc CFA au plus vite. Les sanctions européennes prises à l'encontre de la Russie suite au conflit en Ukraine, semble jusqu'ici dégager une constance, la résilience manifeste de l'économie russe caractérisée par une santé de fer recouvrée par le rouble et la faiblesse structurelle de celle européenne face à ces mesures-là. Amorcée donc depuis le 12 juillet dernier, la chute progressive de l'euro face au dollar illustre bien ce constat. Cette situation donc menacerait le vieux continent de récession et par ricochet les 14 pays utilisant le franc CFA comme monnaie indexée directement sur l'euro par une parité fixe. Cette semaine, l'euro continuait de fléchir sur la parité, donc avec le dollar en perdant 0,04% pour s'établir donc 0,9939 $. Une première depuis 2002, au printemps dernier, il valait autour de 1,2 $. L'euro avait ainsi perdu 13,2% sur un an. Donc cette dépréciation serait consécutive aux décisions américaines prises face à la hausse des prix. L'inflation donc a été plus forte aux États-Unis du fait notamment des politiques budgétaires menées par Joe Biden. Ces plans de relance massifs ont stimulé la hausse des prix de manière plus brutale, ainsi que la hausse des salaires. Donc, la Réserve fédérale américaine, pour éviter cette inflation galopante, a dû augmenter plus rapidement ses taux d'intérêt, comme l'explique un économiste spécialiste de la zone euro. Cette nouvelle chute fait, donc, selon des analystes, planer le spectre d'une récession sur la zone euro, car elle s'accompagne de risques d'inflation et de perte d'attractivité. À leur avis, les mêmes menaces sont valables pour les pays de la zone CFA qui, selon eux, subissent de plein fouet ces variations de l'euro. Ils appuient leur thèse par le fait que toute l'économie de ces pays est basée sur le maintien de la parité de change, ce qui crée une faiblesse énorme dans des périodes compliquées, comme le décrit un économiste. En la matière, les principales répercussions sont d'ordre commercial. La facture pétrolière va augmenter puisque l'Afrique importe le pétrole en dollars et les recettes d'exportation de coton vont augmenter puisque le coton est vendu en dollars, comme l'analyse l'économiste Modibo Mao Makalou, précisant qu'une analyse coût-bénéfice est nécessaire pour déterminer l'impact. Abondant dans le même sens, un autre expert estime que les prix à la consommation pourraient augmenter pour les pays qui importent beaucoup d'aliments de base comme le riz, le sucre ou encore l'huile. Pour y faire face, Karl Gréco pense que les pays de la zone franc CFA pourraient se tourner davantage vers des partenaires commerciaux des autres régions africaines. Leur pouvoir d'achat a baissé, donc ils pourraient s'orienter vers des pays où la production est moins chère et les coûts de transport moindres, souligne-t-il. Donc certainement pour minimiser l'impact de l'inflation provoquée par la chute de l'euro face au dollar. De plus, la volonté du bloc de l'Est, donc de vouloir briser l'hégémonie du dollar, est totalement légitime, vu que les monnaies occidentales s'affaiblissent de jour en jour. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que ce sont encore une fois les pays africains qui ont comme monnaie le franc CFA qui paye donc les pots cassés. Exemple, l'Afrique regorge de pétrole mais se voit obligée d'importer le pétrole et en plus de le payer en dollars. Il serait grand temps que les pays d'Afrique concernés brisent le franc CFA et lancent leur propre monnaie nationale afin d'éviter le pire. L'heure tourne et la situation va s'aggraver de plus en plus pour l'euro, ce qui fait qu'il ne reste plus aucune raison pour ces pays africains d'utiliser encore le franc CFA. Au Mali, tout le monde s'attend à ce que Bamako sorte, donc le pays du franc CFA qui est considéré comme la monnaie coloniale, empêchant les pays d'Afrique de l'Ouest de se développer et de nouer librement des partenariats économiques de type gagnant-gagnant avec le reste du monde. Car si le Mali brise le franc CFA, il est clair que l'effet domino prendra rapidement effet. Les États-Unis demandent à l'Ouganda de choisir entre l'Amérique et la Russie. Un chantage que Washington a décidé d'imposer à tout le continent. C'est un chantage donc qui met en porte-au-feu donc de nombreux pays africains. Lors d'une tournée africaine, Linda Thomas-Greenfield, l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, déclarait récemment que si un pays décide de s'engager avec la Russie ou où il y a des sanctions, Alors, donc, il enfreint ses sanctions et il enfreint nos sanctions et dans certains cas, il enfreint les sanctions de l'ONU avec d'autres pays. Et nous conseillons donc aux pays de ne pas enfreindre ces sanctions car s'ils le font, ils risquent de faire l'objet de mesures à leur encontre pour avoir enfreint ces sanctions. C'est en Ouganda que la diplomate a lancé son ultimatum, une menace qui n'est pas anodine, comme le rappelle donc Africa Intelligence. La rumeur d'une importation de carburant russe à Kampala inquiète en effet les États-Unis qui, selon le journal français, tentent de faire pression sur leur allié ougandais. Pour Yoweri Museveni, le président ougandais peu habitué à se faire dicter sa conduite, c'est un dilemme important qui se dresse face à lui, car en période de crise financière, l'acquisition de produits pétroliers bon marché est une aubaine, mais la menace américaine pourrait bien mettre à mal les finances du pays, Washington, donc faisant régulièrement des dons pour l'aide aux réfugiés et la santé. La menace de Linda Thomas-Greenfield est loin du programme annoncé avant son départ en Afrique. La diplomate avait en effet promis une tournée d'écoute. Elle voulait alors, disait-elle, trouver des solutions et non blâmer les pays africains, notamment après les votes à l'ONU des pays en faveur de la Russie ou bien leur abstention. Dès son arrivée en Ouganda, elle avait cependant déclaré que les pays peuvent acheter des produits agricoles russes, y compris des engrais et du blé, mais que les États-Unis refuseraient tout engagement sur le long terme avec la Russie. Tel un colon qui donne donc sa permission pour une chose, mais pas pour le reste. Ou en tout cas, pas pour ce qui ne l'arrange pas. Mais Yoweri Museveni a beau être un allié de Washington, d'une part, il n'a pas vraiment voulu s'intégrer dans le conflit russo-ukrainien. Il a d'ailleurs exprimé à plusieurs reprises sa sympathie pour Moscou. Reste que la guerre en Ukraine a eu de graves conséquences en termes d'inflation et de crise alimentaire. Et les sanctions onusiennes et américaines contre la Russie empêche certains pays, notamment africains, de pouvoir importer des produits de première nécessité, des engrais ou du pétrole. Ce que conteste donc Thomas Greenfield, qui a osé affirmer que les sanctions imposées par Washington n'étaient pas responsables de la hausse des prix alimentaires en Afrique. La diplomate prétend que les États-Unis veulent mettre en place des partenariats avec des intérêts mutuels entre l'oncle Sam et l'Afrique. Drôle de conception du partenariat gagnant-gagnant. Peu avant, la diplomate américaine, c'est Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, qui s'était rendu sur le continent. Il avait alors déploré la réaction absolument inadéquate de l'Occident, qui a annoncé des sanctions contre la Russie et aussi contre tous les pays qui compte donc suivre les pas de la Russie et montrer donc une certaine alliance avec Moscou. De son côté, l'Europe est elle aussi entrée dans un chantage incompréhensible. En avril dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, affirmait qu'il fallait punir les pays africains qui se sont abstenus ou ont voté contre la résolution présentée à l'ONU. Elle indiquait qu'il fallait notamment pour ces pays supprimer les aides au développement. Ce qui ne serait pas du tout une mauvaise chose, car si les fameuses aides au développement devaient réellement contribuer à développer l'Afrique, alors pourquoi est-ce que cela n'a pas l'effet escompté? Mais pourquoi également les États-Unis sont les premiers à s'opposer aux pays africains, comme par exemple l'Éthiopie, qui veut donc développer son propre barrage donc électrique et ainsi électrifier le pays tout entier. Avec les nombreuses aides au développement, l'Afrique aurait déjà dû s'industrialiser et devenir donc un acteur de poids à travers le monde. Et pourquoi ce n'est pas encore le cas? L'attitude coloniale des États-Unis et de ses alliés occidentaux ne cesse visiblement pas. Peu importe les beaux discours qu'ils font lors de leur campagne électorale, le résultat reste le même. Ils ont chacun le même mépris pour le continent africain. Voilà pourquoi le sentiment anti-Occident grandit de jour en jour sur le continent. Mais ce qui est donc vraiment déplorable, c'est que l'Occident croit encore que son comportement est juste et que la montée du sentiment anti-Occident à travers le continent africain serait en fait l'œuvre d'une prétendue propagande russe. Et non, comme si souvent répété, la montée du sentiment anti-Occident provient du ras-le-bol du peuple africain et non d'une pseudo-propagande d'un tiers.
Le Niger hôte de la réunion annuelle du partenariat d'Ouagadougou. L'événement réunira des participants venus des 9 pays membres et plusieurs de leurs partenaires. Après plusieurs années d'attente, le Niger accueillera en décembre prochain la 11e réunion annuelle du partenariat d'Ouagadougou, placée sous le thème « Développement socio-économique et planification familiale », la rencontre de Niamey regroupera les acteurs de la planification familiale des 9 pays du PO. Ce mécanisme, qui reconnaît la nécessité d'investir dans la planification familiale, regroupe le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo, selon Mapa News. Le choix du Niger pour ce grand rendez-vous n'est pas fourni, annonce l'unité de coordination du partenariat d'Ouagadougou, qui précise que ce pays a été en mesure de relever de nombreux défis afin de promouvoir l'accès des femmes et des familles aux produits et services de planification familiale. Exploitation du pétrole. Le Sénégal espère récolter 888 milliards avant 2025. Entre 2023, début de l'exploitation des ressources d'hydrocarbures, et 2025, le Sénégal espère gagner 888 milliards de francs CFA. Rapporté au budget 2022, estimé à 5 000 milliards, ces fonds représentent 20% des recettes de cette année, rapporte Sénégal Direct. En 2023, ce sont 59,16 milliards qui sont espérés. En 2024, le montant passe à 327 milliards et en 2025, il grimpe encore à 501,24 milliards. Mais l'obtention de ce niveau de ressources est soumise à conditions. Il faudra que le dollar ne soit pas à moins de 595,6 francs CFA, que le cours du baril soit à 90 dollars au moins et que le gaz se situe à 10% du cours du Brent. Ouverture à Pékin du 5e forum sur la coopération Chine-Afrique dans les médias. Le 5e forum sur la coopération Chine-Afrique dans les médias s'est ouvert le 25 août à Pékin en Chine, proposant des événements et des séances à la fois en ligne et en présentiel. Le président chinois Xi Jinping et le président sénégalais Macky Sall, qui est également le co-président africain du FOCAC, ont adressé des lettres de félicitations au forum. Wang Kuming, membre du bureau politique du comité central du Parti communiste de Chine et chef du service de publicité du comité central du PCC, a lu les lettres des présidents et prononcé un discours d'ouverture. Il a noté que ces lettres reflétaient pleinement l'importance majeure de la coopération Chine-Afrique pour les dirigeants ainsi que leur immense espoir pour l'approfondissement de la coopération des médias et pour un partenariat stratégique global entre la Chine et l'Afrique. Droit minier en Guinée. Steinmetz vise à être innocenté en appel. Le magnat franco-israélien Benny Steinmetz vise à être innocenté lors de son procès en appel qui a débuté lundi à Genève après sa condamnation pour corruption dans un dossier de droit minier en Guinée. Flanqué de deux nouveaux défenseurs, Benny Steinmetz s'est présenté libre lundi matin pour contester sa condamnation en janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Genève. Il avait écopé de 5 ans de prison et 50 millions de francs suisses de dommagement pour corruption d'argent public en Guinée. Depuis, lui qui a clamé son innocence pendant tout le premier procès a remanié son équipe juridique. Nous attendons que le tribunal reconnaisse que Benny Steinmetz n'a corrompu personne, a déclaré à l'AFP son avocat, M. Daniel Kinzer, avant le début du procès.